On est un sound system qui organise des free parties depuis maintenant 3 ans et demi. Du coup, voilà, c'est nous sommes.
Du coup, je m'appelle Alexia. Ce qui m'anime vraiment, c'est la passion de l'art.
Moi, c'est Quentin. Je suis organisateur depuis bientôt 4 ans et je m'occupe de toute la partie technique.
Salut, moi, c'est Valère. Du coup, je suis orga, artiste et disc jockey en même temps.
Bah, moi c'est Rems, du coup je suis musicien depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui je suis DJ producteur et organisateur du coup de free party.
Et je m'appelle Solène et je suis teufeuse. Et ce que j'aime bien c'est le spectacle vivant et au final ça se rapproche beaucoup avec la teuf. Des fêtes assez dionysiaques.
La free party c'est des caissons, du son, des gens. Et de la bonne humeur.
Pour moi, la free, en fait, c'est une zone, en général, publique, hein, dans la nature, où les gens se réunissent de façon éphémère, enfin temporaire, pour justement faire la fête de façon libre, donc sans tout ce qui va être contrainte des boîtes de nuit.
C'est un espace où tu peux être toi-même. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'histoire de carte vitale, t'es pas un numéro, t'es juste une personne. C'est un monde où tout devient possible.
L'entrée, elle est à prix libre, selon tes moyens. Donc, si t'as pas un sou, tu donnes 10 centimes à la donation. Que la donation, c'est un peu le péage à l'entrée où on demande aux participants une participation pour essayer de rembourser les frais d'une soirée. Parce que une free party, c'est très rarement rentable. Voire nous, on a jamais, en 4 ans de maintenant, on n'a jamais été rentable sur une seule de nos soirées. C'est pas l'objectif.
Il n'y a pas de contrôle du public, il peut y avoir des mineurs comme des majeurs.
On ne va jamais refuser l'entrée aux faciès, aucune sortie n'est définitive. Les organisateurs tiennent en barre, c'est des prix qui sont corrects, hein, c'est du 1 euro, 2 euros la bière, c'est pas du 5 balles les 33 centilitres.
Il n'y a pas de règles en teuf, mais en fait il y en a. C'est des règles sociales qu'on s'est mises entre nous. Et il y a des limites qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Celle qu'on entend beaucoup, c'est ramasser ses déchets, c'est... ne pas allumer de feu en plein été, ne pas harceler les filles aussi, et contre les agressions sexuelles aussi, et ne pas droguer les autres aussi.
Sachant qu'il y a à peu près au minimum 3-4 teufs qui sont organisés, grand minimum, et c'est vraiment très 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 grand minimum, 3-4 teufs qui sont organisés par week-end en France.
Et les gens ont beaucoup plus une approche de la fête qui est un peu contrôlée, quoi. C'est une autogestion, quoi, la teuf. C'est une autogestion complète. Et même si on est là pour assurer la sécurité sur plein de points dans la soirée, nous, organisateurs, chacun y met du sien. Et faire attention à sa consommation, faire attention à ses déchets.
L'autogestion, c'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui déplaît fortement à l'État. C'est que c'est le genre d'endroit qui prouve qu'on peut être totalement autonome en tant qu'individu. On peut totalement s'en sortir en fait, avec nos propres lois, nos propres règles.
La seule vraie règle qui est en teuf, c'est ta liberté s'arrête où celle des autres commence. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu ne nuis pas à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Donc, c'est une règle qui est implicite, mais qui est là et qui marche très très bien.
Et qui est vachement important dans le milieu, c'est que voilà, on le disait tout à l'heure, c'est une petite famille et la communauté, c'est des gens qu'on va revoir aussi sur certaines soirées, on les connaît pas forcément, mais d'une soirée à l'autre, on va voir les mêmes visages et petit à petit, ça va créer des liens aussi. C'est quelque chose qui est beau.
Il y a des gens qui viennent de tous bords, de toute classe sociale. Moi, j'ai déjà fait une teuf avec un gars qui était banquier en costard-cravate. C'est un monde où tout devient possible.
À l'inverse de la société de consommation où tout est dirigé par l'argent, là, c'est vachement un espace de partage où s'il te manque un truc, tu auras toujours ton voisin de droite ou de gauche qui pourra te dépanner.
Moi, c'est ça que j'adore, surtout quand je suis sur la piste de danse, c'est que je me dis que tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, tous les gens qui sont là, ils ressentent la même chose et on est liés quelque part par ce sentiment-là.
Et là, je vais répondre à une question que souvent les non-initiés me posent. Pourquoi vous écoutez du son aussi fort? Parce qu'en fait, l'avantage d'avoir un sound system qui a une énorme puissance dans les basses, c'est que le son, tu ne fais pas que l'écouter, tu le ressens aussi. tu vas ressentir les basses en toi. Et du coup, c'est une deuxième couche de lecture que tu apportes au son qui est extrêmement intéressante.
Moi, j'ai des collègues qui ont vraiment des très bons potes, qui ont vraiment des gros problèmes d'audition, voire un qui est sourd, et qui va quand même en teuf, parce que justement, lui, ça lui permet de, pour une fois, ressentir le son. Genre, vu que tes sens se développent autrement, et ben lui, ça lui permet de nouveau découvrir la musique. Et c'est pas négligeable.
Il y a quand même des choses qui, des fois, se passent pas bien. Enfin, je sais qu'on voit d'un très mauvais œil la free party par rapport à tout ce qui est prise de drogue, etc. Alors que ça, en soi, pas besoin d'être en teuf pour que ça arrive. Des viols arrivent partout, des gens qui meurent d'OD, ça arrive partout aussi. Nous, on idéalise peut-être un petit peu trop la free party, parce que c'est vraiment un mouvement qui fait partie de nous et qu'on transporte avec nous au quotidien. Mais enfin, voilà, je pense qu'en teuf, en tout cas, on essaie au maximum de limiter les dégâts. Enfin, c'est pas pour minimiser, mais c'est juste qu'il y a aussi des viols dans ta rue, en fait. Pas besoin d'être en teuf et donc pas besoin d'en parler. Enfin, si tu ne parles pas de cette affaire-là, du viol qu'il y a eu au bout de ta rue pendant des jours, ne parle pas du viol qu'il y a eu en teuf pendant des jours, quoi.
Malheureusement, la plupart des articles qu'on voit dans la presse, le titre, ça va être une free party organisée, 50 contraventions mises pour stupéfiants, etc. Ça va toujours être les sanctions dans le titre. Ça va être les sanctions que les organisateurs ou que le public a eu. Alors qu'il n'y a pas d'article en mode soirée à la boîte de nuit Macumba, 50 retraits de permis. Non, on en parle pas parce que c'est légal. Et justement, le fait que ça soit illégal, mais si c'est illégal mais que tout se passe bien, mais les gens vont se rendre compte que c'est idiot que ça soit illégal. Ça serait bien des fois que y ait des articles qui disent il y a eu une soirée, tout s'est bien déroulé, il y a eu une promotion de la culture qui a été incroyable. Alors comment construire un avis positif sur la free party dans notre société quand les gens extérieurs au milieu n'en entendent parler qu'en négatif?
C'est-à-dire que quand tu fais un événement légal, aujourd'hui tu es obligé d'embaucher une sécurité, tu es obligé de te mettre aux normes, tu dois louer. T'as énormément de frais et tout, et forcément l'État va taxer beaucoup de choses, hein. Et donc en teuf, en fait, c'est pas aimé parce que justement on fait les choses nous-mêmes et on les emmerde, quoi. Et ils le voient qu'on les emmerde, hein. Ils le voient très bien, ils voient que, et pourtant tous les week-ends nos génératrices fonctionnent avec leur essence qui est taxée, qui fonctionne, on achète des litres et des litres d'alcool pour les vendre, c'est aussi taxé. Quand tu compares 1000 festivaliers et 1000 teufeurs, sur 1000 festivaliers, bon, c'est une moyenne, mais je sais pas combien tu vas avoir de coma éthylique ou de personnes qui seront dans le mal à cause d'une drogue qu'ils ont pris. Et en teuf, t'en auras beaucoup moins parce qu'on est beaucoup plus informé. Il y a énormément de RDR en teuf, il y a énormément de RDR, ça tourne, ça parle de tous les produits.
J'ai de tout, kétamine, meth, MDMA, Adderall, Bromo Dragonfly, héroïne, coke, crack, codéine, oxy, perc, PCP, LSD, dis-le-dis.
En tant qu'organisateur, du coup, on a aussi un rôle d'information. En fait, il y a des assos de RDR, donc par exemple Techno Plus, qui est la plus connue, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Soit ils viennent, eux, avec leur stand, soit en fait, ils font une formation pour les organisateurs que nous, on a suivi, ou après, ils peuvent nous laisser le matériel de réduction des risques en libre-service, parce que justement, en boîte, en festival et dans les événements légaux, les organisateurs ne veulent pas être reliés à ce genre de produit. C'est caché en festival, c'est encore plus caché en boîte. Donc, il n'y a pas un dialogue sur ça, alors qu'en teuf, comme c'est un sujet qui est totalement libre, les gens en parlent entre eux. Ce n'est pas une incitation, c'est un accompagnement et un conseil avant tout.
Oui, il y a de la drogue. Oui, il y a des risques. Et en fait, c'est complètement aberrant de les renier, de faire un gros déni en disant non, on n'en parle pas parce que c'est pas bien et il faut pas faire ça. Peut-être que c'est pas bien, probablement. Mais en tout cas, les gens le font et il faut l'encadrer pour que ça se passe de la manière la plus sécuritaire possible.
Juste le principe de la RDR, en vrai, en résumant juste ça, c'est que c'est comme si tu avais quelqu'un au bord d'un pont. Au lieu de lui dire ne saute pas, tu vas lui mettre des matelas en dessous. Tu vois. Certes, il va sauter, mais il va bien se réceptionner.
Attendre 36 à 48 heures avant que les neuroleptiques atteignent un niveau opérant dans l'organisme. Vous vous sentirez comme un cocktail. Vous n'avez pris aucun cachet, j'espère aucun comprimé. Si vous aidez des drogues psychotropes, Seigneur.
tout début, tu vas en teuf parce que la première fois que je suis allé en teuf, moi, j'ai entendu ça parler, je sais pas, j'étais dans un parc en train de boire des bières avec des potes, donc j'ai tapé free party. J'ai tapé free party et j'ai vu ce que c'était une free party. J'ai fait waouh, c'est quoi ce délire, quoi. C'est quoi ce délire. Voilà, tu rencontres des gens, tu vas avoir des contacts, des numéros. Au début, ça se faisait vachement comme ça. Aujourd'hui, il y a une partie un petit va sur Internet, un petit peu, c'est ça le problème. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de dérives et qu'on arrive à avoir les flics avant nous sur les spots certaines fois. Mais c'est essentiellement par contact, c'est-à-dire que tu reçois une infoline sur ton numéro de téléphone, sur ton téléphone par... qui a été envoyé par plein de gens dans ce réseau-là.
Et les messages d'info pour les teufs, on a déjà un premier message qui dit quel sound system, quel teuf, à peu près le département, mais jamais le lieu exact. Et il y a toujours, à la fin du message, ramasse tes poubelles et prends soin de tes potes.
En fait, c'est un petit peu une chasse au trésor. La teuf, elle commence à ce moment-là, en fait. Vraiment, elle commence à partir du moment où tu as l'info, tu montes dans la voiture et puis tu pars avec tes potes. C'est vraiment... toute une aventure, la teuf, quoi. C'est en fonction de si c'est une 48 heures ou une 24 heures, vu que ça peut être en deux temps, tu vis vraiment des aventures exceptionnelles, quoi.
Alors, en gros, nos soirées, on va les organiser sur des lieux où on va chercher à ce que ça gêne le moins possible, en fait, les autres personnes. Parce que nous, on part du principe que nous, on s'amuse, on fait la fête. Mais quand même, voilà, on va pas arriver et poser 20 kilos de son en plein milieu d'une ville. Voilà, ça ne se fait pas pour des gens. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui doivent se reposer. Où on va offrir à la fois une zone de détente, mais aussi une zone où les gens ils vont se ressourcer. C'est-à-dire que ça va être aussi des beaux paysages, des endroits insolites auxquels on n'irait pas forcément en temps normal, quoi. Et du coup, ça fait que chaque soirée est un plaisir, qu'on découvre de nouveaux lieux, de nouveaux endroits où on ne serait pas forcément allé en France, enfin même dans le monde entier, parce qu'il y en a de partout. Et ça fait du bien, quoi.
Du coup, sur le choix du terrain, le critère numéro un, ça va être l'éloignement par rapport aux habitations. Donc même s'il y a une maison, on essaye d'être le plus loin possible. On vraiment n'emmerder personne. Le deuxième critère, ça va être est-ce que le terrain est accessible en poids lourd ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent en camion qui viennent à nos soirées, donc c'est important qu'ils puissent venir aussi. Et puis le fait que ça soit accessible en poids lourd, ça veut aussi dire les poids lourds des pompiers. Donc on sait que si jamais... il doit y avoir une intervention des pompiers pour un malaise ou un incendie, ils pourront venir. Le troisième critère, ça va être l'importance écologique du lieu. Comme on pose dans la nature, tous les lieux ont une importance écologique, mais certains lieux sont protégés. On a vachement une mentalité écologique dans le milieu de la teuf, donc c'est vraiment ne laisser aucun déchet, ne pas abîmer l'endroit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le « leave no trace », « no trace ». C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est parti et qu'on a tout remballé, bon, si quelqu'un vient sur le site, il ne doit pas voir les traces de la soirée, il ne doit pas comprendre qu'il y a une soirée ici.
Si on le cache-cache avec les flics, il vient aussi jouer sur où trouver la soirée, parce que justement, on le disait, il y a des sites qui sont... enfin, des endroits où on pose qui sont protégés, par exemple Natura 2000. Et en fait, il faut savoir que quand on se retrouve sur ce genre d'endroits qui de base sont protégés, c'est qu'en général, avant, on avait prévu un endroit plus écologique, sauf que ça, quelque part, ça a fuité. Et l'État est au courant de la soirée et nous interdit l'accès à cet endroit. Ce qui fait que bien souvent, on est obligé de se retrancher sur d'autres endroits qui sont malheureusement des fois protégés. Mais c'est parce qu'on ne nous laisse pas le choix. Du coup, c'est vraiment un jeu de cache-cache avec l'État. Il faut vraiment qu'ils arrivent à nous trouver, on va dire, le plus tard possible. Le truc qui va aussi faire que la soirée, elle marche, c'est qu'on ait du monde sur place. C'est-à-dire que, on le sait, la foule, ça fonctionne.
La commune des Temples, la municipalité n'autorise pas les répartis.
Alors, même si c'est sur un terrain privé.
Même sur un terrain privé. Il y a quand même assez d'incidents au niveau répartis pour dire, nous, on n'en veut pas à étant, comme ça, on sera tranquille. 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 Comme ça, on sera tranquille.
T'arrives avec deux camions, une voiture sur un terrain où il n'y a personne, il n'y a rien, t'arrives avec tes potes, t'ouvres une petite bière et tu dis allez les gars, faut monter l'échafaudage, faut mettre la déco. Et après ça, tu vois des gens qui viennent et qui kiffent en fait ce que ton pote DJ est en train de produire.
Pourquoi on a fait de la free? Je pense que c'est avant tout pour nous, parce qu'on avait envie de faire les choses à notre manière, et pouvoir justement recréer ce que nous on vivait en soirée chez les autres. Voilà, nous on a passé de super bonnes soirées, on s'est vraiment énormément amusé à des soirées de gens qui prenaient énormément de risques pour nous, pour qu'on puisse passer un bon moment. Et je pense que dans le groupe on a tous eu ce déclic, et voilà, nous c'est notre truc, on a envie que les gens ils s'amusent, ils soient bien le temps d'un week-end, le temps d'une soirée, ils soient là et ils puissent profiter, oublier tous les soucis qu'ils ont eu la semaine.
On a commencé tout petit avec des caissons qui n'étaient pas forcément, des enceintes qui n'étaient pas forcément top qualité. Et puis au fur et à mesure, toujours dans vouloir toujours mieux faire, toujours pouvoir proposer une expérience la plus qualitative possible au public, on a investi, on s'est amélioré, on a appris des choses. C'est vraiment très gratifiant de se dire qu'on est parti de quasiment de zéro, qu'on a tout fait en autodidacte, qu'on arrive aujourd'hui à rassembler autant de monde et que tout ce monde kiffe nos soirées et s'en sorte avec le sourire, quoi.
La teuf, enfin moi je veux dire, j'ai aucun diplôme là-dedans, j'ai juste eu envie de le faire. Et c'est comme ça qu'on a, je pense, qu'on acquiert au final le plus de compétences.
Au-delà d'organiser, tu peux caler tes propres sets. À l'époque, c'était trouver un groupe pour pouvoir créer un sound system. J'ai découvert ces crétins-là, Quentin, Valère et toute cette troupe-là. Et du coup, je me suis dit, mais quelle opportunité, c'est incroyable. Je vais pouvoir mixer sur mon propre mur, je vais pouvoir faire n'importe quoi. Et au final, des heures d'actifs de DJ en soirée, au final on en a eu je sais pas combien, quoi.
Des 8 heures d'affilée, il en a fait, hein.
Voilà, on parle peut-être de 8 heures d'affilée, mais...
Et on a envie aussi de pouvoir en vivre à un moment, donc forcément on est obligé de se tourner vers le légal pour en vivre. Ça, c'est pas en free party qu'on va tirer un salaire, parce que de toute façon on n'est pas dans un objectif de rentabilité. Donc oui, on va faire du légal, mais on ne va pas abandonner la free party, parce que les valeurs qu'on promeut avec ce mouvement-là sont trop importantes pour les abandonner.
On a investi beaucoup d'argent dans le matériel, parce que du coup, chacun ici possède du matériel. Là, on va passer sur du légal en passant par une association, étant donné que nous, du coup, on n'a pas de diplôme. Et avec l'association, on sait qu'on pourra faire un petit peu plus de choses.
En fait, organiser ce genre de soirée, ça, c'est le seul truc, vraiment le seul, que j'ai trouvé qui réunit tout et qui m'épanouit autant. La réflexion technique en amont sur quelle configuration pour la sono, quel caisson on va utiliser, quel ampli, etc. La pratique sur place, tout ce qui va être réglage du son, câblage, etc. La conception graphique de la décoration, les recherches techniques pour la réaliser, quel bois je vais utiliser, quel matériau, comment la faire tenir, est-ce que c'est assez solide, est-ce que c'est assez sécuritaire pour les gens, tout en pensant à la vidéoprojection, donc le mapping que je vais faire dessus.
C'est s'exprimer artistiquement, parce qu'au final on a tous artistiquement un truc à donner, et c'est là où au final l'échange est fort, quoi. L'échange est vachement fort.
L'illégal, je pense que déjà, on s'est tourné vers ça, pas forcément par choix, mais juste parce que en fait, on avait envie de le faire tout de suite, et du coup, c'était le seul moyen de le faire.
Du coup, chaque soirée est une prise de risque, mais ça en vaut la peine.
La légalité nous donne envie, on reste sur l'illégalité parce que ça nous fait kiffer. On arrive sur les spots, on est un petit peu stressé, on ne sait pas comment ça va se passer. On arrive, on envoie l'info, on monte les caissons, et les gens arrivent, les flics arrivent, etc. Et tout ça s'enchaîne, et c'est ça. Quand on rentre à la fin, qu'il est 22h, 23h chez nous le dimanche soir, et qu'on se regarde et qu'on a rangé tous les caissons, on se dit « putain les gars, c'était une dinguerie ».
Et puis c'est surtout un milieu où tu vas pouvoir entendre des artistes que tu n'entendras jamais dans des festivals ou des boîtes. En boîte, comme c'est la rentabilité, en festival c'est la rentabilité, c'est normal, ils ont tellement de frais, tellement de trucs légaux à gérer justement qu'ils sont obligés de ramener des artistes qui vont forcément ramener du monde. Alors que nous, on peut se permettre de prendre un artiste qui a 300 vues sur ses sons, mais il fait des sons qui sont excellents.
Ça ne rapporte pas d'argent à l'État, donc... Par exemple, au niveau des sons qu'on passe, c'est des sons très underground, mais leur argument, c'est que du coup, la SACEM ne peut pas toucher les droits qu'on passe des artistes, sauf que la majorité de nos artistes ne sont pas à la SACEM, et on ne veut pas alimenter la SACEM.
Je produis du dub et de la petite trance. Et après, je suis DJ sur un paquet de styles qu'on peut passer en free, qui va de la techno jusqu'au hardcore. Mais sinon, après, je fais principalement de la composition sur MAO. Musique assistée par ordinateur, c'est des logiciels. Enfin, au logiciel de MAO.
Et un maximum dans les musiques, j'essaie de découvrir un peu tout ce qu'on va passer dans nos soirées. Donc, comme le disait Rémi, ça va de la techno à l'hardcore. Il y a aussi de l'acide, acidcore, de la mentale, de la petite tribe. Mais ça arrive aussi de voir un petit peu de disco ou de la guinguette au petit matin. De la drum and bass, de la dub justement pour Rémi. On a déjà vu du reggae. Il y a des gens qui ont déjà fait du beatbox sur des murs. Enfin, c'est du rap aussi. Il y a énormément de style, et moi, mon genre de prédilection, c'est tout ce qui va se rapprocher de l'acide et de l'acidcore, donc des sonorités vachement distordues, psychédéliques, assez énervées.
Son mélodie qui t'emporte la tête, et en plus avec ça une basse qui vient faire réagir ton corps, à faire vibrer tout ton corps, ça fait un espèce de packaging complet des sensations que tu peux avoir qui est incroyable, et que avec d'autres styles de musique tu peux pas forcément ressentir.
Après s'il y a un peu de hardcore par-ci par-là, pourquoi pas. Et puis c'est tout, je crois.
Le hardcore, c'est quelque chose avec des BPM qui sont très hauts. Et en fait, c'est parce que ça me défoule. Moi, j'adore aussi beaucoup les teufs pour ça. C'est un petit peu mon moment où je me défoule. Et la guinguette. La guinguette qui est, une fois de plus, une manière de partager incroyable. Parce qu'il y a quoi de mieux qu'un son de techno avec les copains d'abord de Brassens, je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé.
Ce n'était pas le radeau de la mémé, ce bateau qu'on se le dit.
En teuf, il y a ce qu'on appelle les gadou parties. En fait, c'est des teufs où en fait il pleut, et comme il pleut, il y a de la boue partout, et les gens retrouvent le plaisir de salir comme quand on est gamin, en fait, le plaisir de se mettre de la boue partout. Il y a un petit peu, comment dire, un retour en enfance où il n'y a pas de le regard des autres, on fait ce qu'on veut, on n'est pas jugé pour ce qu'on est. Et cet état où on n'a pas le regard des autres, malheureusement, de nos jours, en fait, il n'y a que les enfants qui l'ont.
Il y a énormément de manifestations où justement les sound systems et les teufers sont présents avec leurs chars. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est la loi sécurité globale qui nous pose énormément de problèmes, à la fois pour dans la vie de tous les jours et à la fois pour nos soirées. Et à l'époque, il y avait bien d'autres lois qui ont posé soucis, et toujours la même chose, c'est nous aussi, on a envie de se faire entendre, notre mouvement est réprimé.
La répression, il y en a et il y en aura de plus en plus, malheureusement. Pour le milieu de la teuf, il y a eu la loi Mariani au début des années 2000, donc qui a totalement interdit ça, parce que avant, comme c'était nouveau, ils n'avaient pas de loi. Au début décembre 2019, en fait, il y a eu une augmentation des sanctions. Donc on est passé à 4000 euros d'amende par organisateur et un mois et demi de travaux d'intérêt généraux. Et bien sûr, toutes les lois qui passent, notamment la loi sécurité globale, qui viennent encore ajouter et alourdir les sanctions qu'il y a déjà mises en place. Sachant que tout ça, c'est pour le simple délit d'organisation. L'État et les flics, ils arrivent à rajouter un nombre de chefs d'accusation aberrants en plus, stationnement sur des FCI, facilitation d'accès à la drogue. Donc là, de toute façon, on voit très clairement que l'État, depuis ces dernières années, va pas du tout dans la direction de la tolérance avec nous. Mais ce qu'il devrait comprendre, c'est qu'en fait, plus t'interdis à ton peuple certaines libertés, plus il va braver les interdits et plus il va le faire de façon virulente pour avoir ces libertés-là.
Ça fait chier pour les amendes, etc., parce que chaque participant va en prendre une. Mais après, on préfère aussi on sait qu'ils font du bon boulot à la sortie de teuf, parce que on sait qu'il y en a plein qui repartent dans des états des fois pas possibles, et c'est ça qui va faire des accidents sur la route et surtout donner une mauvaise image au mouvement, quoi.
Si les flics sont à la sortie de la soirée, ils vont faire leur travail, qui est très bien, ça va être les contrôles alcoolémie et stupéfiants pour être sûr que les gens repartent sainement avec leur voiture. Mais par contre, ils vont en profiter pour mettre 135€ d'amende pour chaque participant. Et est-ce qu'il y a vraiment à toutes les boîtes des contrôles de flics à la sortie ? Non. Donc oui, les flics font notre travail à nos teufs, mais qu'ils fassent leur travail partout, qu'ils ne stigmatisent pas particulièrement.
En France, en fonction des régions où tu es, les flics vont être beaucoup plus cléments c'est en fonction du préfet. Mais par exemple, en Ariège, je sais qu'en règle générale, ils venaient nous voir, on discutait un petit peu avec eux, ils nous demandaient de couper le son le dimanche à 15h, tu te mets d'accord. Des fois, ils te laissent un numéro de téléphone et après, ils te font plus chier, quoi. À partir du moment où ils voient qu'on a laissé l'espace pour faire passer les pompiers au cas où il y a un souci, qu'il y a de la RDR, qu'il y a de l'eau, qu'on est quand même organisé, qu'on vient... qu'on ne pose pas trois caissons, qu'on est responsable, qu'on ne va pas mettre des gens en danger, il n'y a pas de souci en fait. Mais tu as d'autres régions, par exemple le Gard, où c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, le préfet en fait, va directement faire des saisies. Il y a eu certaines teufs où il y a des gens qui se sont fait prendre, des teufeurs qui se sont fait prendre à coups de matraque. On l'a vu notamment avec l'histoire de Steve, du coup. Steve, pour la fête de la musique, qui a fini par se noyer dans le canal parce qu'il y a eu une grosse descente de flics.
Il y a aussi, je pense, des revendications par rapport aux violences policières, beaucoup. On a parlé de Steve avant. Je pense qu'il y a eu pas mal de manifs après Steve pour justement... pointer le problème qui était la répression violente de la police dans les teufs, mais partout et en manifestation.
Le milieu de la teuf, c'est plein de contradictions. On veut que nos soirées soient autorisées, mais on ne veut pas être encadré par l'État. Donc en soi, le mieux, ça serait pas de légaliser nos soirées, mais ça serait de les dépénaliser. Parce que la plupart des sound systems et des revendications depuis ces 20-30 dernières années, c'est que l'État mette à disposition des terrains adaptés pour qu'on puisse organiser nos soirées.
Et d'ailleurs, rien que le nom est parlant, on appelle ça une free party. Voilà, je pense que c'est ce qu'on demande en fait quand on danse, et c'est ce qu'on demande aussi quand on manifeste, plus de liberté, tout simplement.